Volume sur 11, un podcast d'Antoine Dubuquois. De la musique avant toute chose. Ça, c'est Verlaine qui l'a dit. Avec le volume sur 11, ça, c'est Spinal Tap. On n'a jamais autant produit de musique qu'aujourd'hui. Pour les artistes, c'est loin d'être simple de se faire connaître dans tout ce bruit. Dans le volume sur 11, je vais à la rencontre des artistes, à la découverte de nouveaux noms et de nouveaux sons. Dans chaque épisode, une nouvelle rencontre. Il y aura de la pop, du rock, de l'électro, du métal, du punk, du rap, tous les genres. Ouvrez vos chakras, on commence. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le volume sur 11 justifie son titre. Mon invité, en effet, dans ce nouvel épisode, est Matt Bastard, le leader de Skip the Use, un groupe 100% énergie qui nous a enchantés par des concerts complètement incendiaires dont on ressortait complètement fracassé, suant et heureux. Skip the Use revient sur le devant de la scène avec un nouvel album, Human Disorder. La niaque est toujours là. Salut Matt.
Salut.
Alors dis-moi, il y a eu un break de 3 années entre deux albums. Qu'est-ce qui s'est passé donc justement entre ces deux albums et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de revenir ?
Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu le Covid, la pandémie. Donc, nous, sur notre dernier album, notre tournée, elle a été coupée en plein vol. Dans un premier temps, il a fallu assumer tout ça. Et puis, le Covid, la pandémie a enchaîné plein de choses chez les acteurs de la culture en France et dans le monde. Hein, ça a été compliqué. Et donc, d'abord, il a fallu se reconstruire individuellement, puis après, se reconstruire en tant que groupe. Et puis transformer toutes ces émotions qu'on a vécues en énergie créatrice. Et c'est là qu'on a transformé ça en la composition d'un album. Et voilà, donc c'est ça qu'on a fait pendant 3 ans. Moi, j'ai fait de la télé, j'ai produit des choses, des machins. Mais dans l'idée, c'est un peu ça, quoi. Il a fallu se reconstruire et se réinventer.
C'est le même groupe qu'il y a 3 ans. Parce que ouais, tu as eu un projet solo vers 2017. C'était une mise en sommeil de Skip the Use. Et comment s'est passée cette période ?
Avec Yann, on a c'est un projet Skip the Use qu'on fait à deux avec Yann depuis 2009. Donc on a commencé tous les deux pour monter le groupe, on compose les morceaux tous les deux, puis après moi je fais les textes, donc il y a tout un travail qu'on fait avec Yann. On a commencé avec 3 musiciens pour faire la tournée, et on a fait ça pendant jusque 2015-2016. Et pour nous, Skip the Use, c'est vraiment un full-time job, quoi, c'est un plein temps, et donc ça ne nous laisse pas beaucoup de temps de faire autre chose et d'aller se former à des nouvelles choses, d'acquérir de l'expérience, justement pour aussi après réinjecter tout ça dans Skip. Donc vers 2015-2016, on a décidé de faire un break justement pour faire tout ça. Moi, je suis producteur aussi à cause de Skip the Use et puis et réalisateur. Donc je suis parti aux États-Unis pour faire ce travail-là de producteur et de réalisateur parce que en étant dans Skip, je n'avais pas le temps de le faire, j'avais envie de sortir un album solo et puis lui aussi. Donc, on a pris le temps de faire toutes ces choses-là, on a pris le temps d'acquérir l'expérience qu'on voulait. C'est pour ça qu'on a fait un break.
Alors, au niveau musical, c'est le même son, c'est la même inspiration, c'est toujours ce même mélange de rock et d'électro avec des passages un peu plus funk, voire pop. Tes influences musicales se situent où ?
Moi, je viens vraiment du punk, du hardcore et de la techno. Moi, j'ai techno, la musique électronique. Et puis, Yann, lui, franchement, il vient de partout, quoi. Il est vraiment vient du rap, du rock, du métal, de la funk. Il est beaucoup plus diversifié que moi. Et c'est ce qui m'a ouvert l'esprit à tout ça. Voilà, nos influences sont diverses et variées.
Le rock est devenu une espèce de musique de niche. Hein. Aujourd'hui, ce qui cartonne, c'est le R&B, c'est le rap un peu autotuné. Qu'est-ce que ça fait de défendre encore ce son très, très rock ? Est-ce que tu n'as pas l'impression d'être le dernier des Mohicans ?
Si on considère que la France, c'est le centre du monde, oui. moi, je vis aux États-Unis, ce n'est pas du tout le cas. En Angleterre, ce n'est pas du tout le cas. En Allemagne, ce n'est pas du tout le cas. Je pense qu'en France, on a clairement un vrai déséquilibre, oui. Mais après, c'est dû à plein de trucs. En France, on a des lois, on a des quotas, on oblige les radios à passer des artistes et pas en passer d'autres. C'est très, très... Enfin, en France, c'est compliqué. T'es orienté pour que socialement, il y ait quelque chose qui se passe dans un mouvement et ça a fonctionné. Donc oui, effectivement, le rock, le métal, toutes les musiques alternatives ont été marginalisées. Mais c'est aussi pour ça que tous les groupes de rock bah, tournent partout dans le monde. Moi, je vois Last Train, ils jouent partout. Nous aussi. Et on est un peu. Enfin, on est dégoûté parce que ce qu'on veut pas, ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse avoir voix au chapitre et pouvoir s'exprimer. Malheureusement, dans
Sûr.
notre pays, c'est beaucoup plus compliqué. Et encore, nous, on fait partie des chanceux parce que on a quand même pas mal de médias et pas mal de. Mais bon, on n'est pas tout seul. Et il y a plein, plein de groupes de rock en France et plein de gars qui se disent, putain, on est une niche. Mais non, on n'est pas une niche. Sinon, on n'aurait pas le Hellfest, on n'aurait pas les Eurockéennes, on n'aurait pas. Enfin, non, la France, c'est certes le deuxième marché mondial du rap et c'est cool parce qu'il y a des super trucs en hip-hop, mais il y a aussi plein de trucs cool dans d'autres styles de musique, quoi. Gérard en France.
Gojira, c'est énorme. En plus, ouais, ils ont su s'imposer sur la scène internationale. Et vous, en fait, Skip the Use, là, qu'on chante en anglais, est-ce que vous avez été gêné par les quotas?
Hein, nous, on se prend ça dans la gueule. Hein. C'est pas un quota pour que les gens comprennent, c'est pas un quota de groupe français, c'est un quota de groupe qui chante en français. Donc voilà, ce qui fait que tu peux te retrouver playlisté dans toutes les radios si tu chantes quand il pète, il trouve son slip. Parce que c'est en français, mais pas si tu fais Ghost. Et, bon, je caricature, mais en gros, il y a un peu. Enfin, bref, c'est tout, c'est comme ça. Enfin, tu vois, je suis pas. Pas c'est comme ça. C'est comme ça. Ça ne nous empêche pas de faire de la musique, ça ne nous empêche pas de nous exprimer. En même temps, la France, elle génère des Daft Punk, des Phoenix, des Justice, des Gojira, comme j'ai dit, des Chaka Punk, des Last Train, et on est très fiers de ça. Et voilà.
Le parti pris de chanter en anglais, c'est parce que vous visiez tout de suite l'international, ou alors parce que bah, c'est plus simple de composer en anglais, ou alors parce que la langue s'adapte mieux.
Contrairement à ce qu'on croit, c'est très dur de composer en anglais, enfin bien en anglais. Tout le monde peut composer en anglais, mais si tu veux qu'un anglais il écoute ta chanson et qu'il trouve ça cool, c'est très compliqué parce que c'est notre culture, c'est notre langue, c'est notre façon d'écrire. Et en tout cas, il n'y a jamais eu une démarche anti-française tant en anglais. Au contraire, moi, je suis un fan de Bruno, de Jacques Brel. Voilà, je suis fan de plein de. J'adore Téléphone. Enfin bon, il y a plein de trucs en français que je trouve mortels. Non, c'est juste que nous, on vient de Lille. On jouait autant à Lille qu'en Flandre, qu'en Belgique, qu'en Suisse. Et que oui, effectivement, chanter en anglais, ça nous permettait d'aller un peu partout. Et puis surtout, je pense qu'on a décidé de travailler cette langue parce qu'on était aussi très inspiré par les groupes anglo-saxons, surtout venus d'Angleterre. Et puis par la suite, on a aussi grandi, on a appris à écrire différemment. Moi, ça a été plus par le travail de mon travail de métier de producteur ou à travailler pour d'autres artistes. Moi, c'est pour ça que ça m'a toujours fait rire de devoir me bagarrer pour être, tu vois, pour être dans des médias ou des machins où on me disait tout le temps, mais pourquoi vous chantez en anglais? Et d'un autre côté, je faisais des morceaux pour TFN. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Enfin, tu vois, l'un n'empêche pas l'autre. C'est vraiment. Mais je pense que le public le sait, ça. Je pense que ce n'est pas une question de public, c'est vraiment une question politique. Et là, on rentre dans un sujet qui est très vaste, dans lequel j'ai pas envie de m'engouffrer, parce que ça me fait chier. Mais.
T'as écrit un titre pour TFN, alors ça je découvre.
Ouais, j'ai fait une chanson sur un de ses albums, celui qui a été réalisé par son fils. La chanson s'appelle Médiocratie. Puis te dire le nom de l'album.
Alors, revenons sur ton parcours musical. Tu as commencé par le punk. Qu'est-ce qui reste du punk en toi? Une attitude, c'est un style musical, c'est une colère. Qu'est-ce que ça exprimait être punk?
Oh, pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. Pour moi, le punk, c'est une façon de voir, c'est plutôt une philosophie, c'est une façon de voir la vie. C'est essayer de voir la différence comme une force et puis comme une possibilité de grandir et d'apprendre des choses plutôt que de la voir comme Éric Zemmour, tu vois. S'inspirer des autres pour évoluer soi, pas avoir peur de se remettre en question, être fier de ce qu'on est, être fier de ses différences, être fier de ses singularités. Pour moi, c'est ça, être punk, être dans le partage, être enrichi par l'autre. Tu vois, c'est beaucoup plus qu'un style de musique, qu'une coupe de cheveux ou qu'une façon de s'habiller. Parce qu'aujourd'hui, tu vas chez H&M et puis tu t'achètes un t-shirt punk et puis voilà, non, c'est ça. Et c'est même plus qu'un style musical parce que. Des mecs qui sont super punk qui font du reggae, je sais pas, Bob Marley, c'est un super punk. par des couilles pour aller chanter I Shot the Sheriff sur une tournée américaine.
C'est vrai.
Et c'est lui qui l'a fait. Renaud, dans son temps, chantait Hexagone. Voilà, fallait. Brel aussi, à sa manière, tu vois. Je pense que qu'est-ce qui reste du punk aujourd'hui? Ben, on a deux solutions. Soit on suit une trend, on se met dans le mood, et puis on décide de, comment dire, de se livrer à des choses qui sont commercialement pas engageantes et qui nous permettent, tu vois, d'avoir plein de followers et puis d'être et puis ça se passe bien pour toi et puis c'est tant mieux, honnêtement, si ça rend des gens heureux, tant mieux. Ou alors être fier de ses singularités et puis choisir de faire les choses comme on est, et même si ça te permettra pas forcément d'avoir plein de followers, d'avoir plein de radios et tout, etc. Et donc voilà.
Les réseaux sociaux, c'est devenu indispensable pour les artistes. Comment tu réagis par rapport à ça?
C'est comme tout. Je pense qu'il y a à boire et à manger. Il y a des trucs super cool. Moi, je suis super content de pouvoir, avec ma femme, je fais de la techno. Ma femme, elle fait de la musique qu'on produit à la maison nous-mêmes. Et c'est super cool parce qu'avec les réseaux sociaux, on peut sortir des morceaux. On peut avoir des retours sur ce qu'on fait. On peut dresser une communauté autour d'une pièce artistique. Et je trouve ça génial. Et puis, d'un autre côté, ça détruit certains jeunes qui sont beaucoup trop faibles et qui pensent qu'en ayant l'aval d'une communauté, ils vont trouver une identité. Et c'est là où ça devient très très dangereux. Et c'est à nous, peut-être aussi les plus vieux, d'être là pour eux. Comme dirait Aurel San, saute dans le bain et devine comment on nage. C'est un peu comme ça être aujourd'hui. Donc tu vois. Les réseaux sociaux, c'est une bande de marketeurs qui ont très bien compris ça et qui c'est une bande de marketeurs qui ont compris ça et qui l'exploitent, et donc ça me fait chier, ouais.
Est-ce qu'il y a des artistes punk ou hardcore que tu as beaucoup écouté, qui t'ont influencé dans ta façon d'écrire, dans la façon de composer?
Oh bah ouais, Ian MacKay de Minor Threat, Fat Mike de NoFX. Moi, je suis toujours fan de ces harmonies-là. Tim Armstrong de Rancid, les premiers albums de Biohazard, Suicidal Tendencies. C'est vraiment des groupes que j'ai adorés et qui m'ont formé dans la musique et qui m'ont permis d'être aussi qui je suis. Et puis même, là, je te parle de punk rock, mais je pourrais te parler, des mecs comme Laurent Garnier, des nanas aujourd'hui comme Charlotte DeWitt, Amélie Lenz. La techno, pour moi, c'est l'autre penchant du punk où vraiment il y a une liberté absolue qui s'affranchit de plein de codes, et moi je suis un enfant des free parties, donc je kiffe ça. Oui, c'est des gens qui m'ont donné une vision. Le collectif Art.M dans le nord de la France, ou le groupe de musique électronique APM 001, moi c'est notamment eux, Art.M, c'est vraiment. Thierry, Seb et Fanny, c'est un trio, et c'est des gens qui m'ont, depuis que je suis petit, donné dans un premier temps envie de faire de la musique et envie de la faire d'une certaine façon. C'est vraiment des gens que j'adore et à qui je dois beaucoup. Ils ne sont même peut-être pas connus.
En fait, tu as créé des ponts entre les musiques extrêmes et les musiques électroniques. En fait, c'est ça, Skip the Use, c'est un creuset qui rassemble de multiples influences.
Ouais, puis surtout on a envie de faire danser les gens dans la prise de position, c'est juste ça.
Comment est-ce que tu travailles avec Yann? Qui compose, qui écrit les textes? Ça commence par quoi, en fait? Un texte, un riff?
Ça dépend des chansons. Là, avec le Covid, on a beaucoup travaillé en solo, chacun chez soi. On avait un peu chacun nos chansons, tu vois. Et après, chacun vient mettre son nez dans la chanson de l'autre. C'est un peu travail depuis plus de 10 ans. Mais... Après, là, le dernier album, on l'a réalisé à quatre, parce qu'on est quatre dans le groupe. On a aussi cinq producteurs et réalisateurs avec chacun nos spécificités. Donc, on a composé les chansons comme ça avec Yann, tous les deux. Et puis après, moi, j'avais vraiment une idée de direction artistique, de prod. Yann, lui, il a plutôt un talent très créatif, brut. C'est quelqu'un qui ne va pas s'embarrasser d'une prod ou aller dans le détail du son, etc. Lui, c'est vraiment la créativité pure à l'anglaise. Il a adoré notre séjour en Angleterre pour Little Armageddon. Et je pense que ça l'a vraiment formaté un peu dans ce sens-là. Et du coup, c'est cool. Parce que moi, je suis un peu l'inverse. Je suis vraiment très, très prod. J'aime bien aller au fond du truc. Nelson, le bassiste, lui, c'est un vrai spécialiste des textures. C'est un vrai spécialiste de l'environnement, de l'ambiance, de ça. Donc, c'est un spécialiste du matériel aussi, qui connaît voilà, des pédales, il fabrique, il construit, c'est un peu un chirurgien du son. Et Enzo, c'est un synthétiseur, c'est quelqu'un qui, bah voilà, quand je dis sur telle chanson, c'est cette DA-là, ben lui, son boulot, c'est de rassembler tout ce qui se passe des trois ordis pour l'unir, l'unifier dans le sien et aller au bout du truc. Et voilà, et en travaillant comme ça, en ayant chacun notre rôle, c'est comme ça qu'on a réalisé notre dernier album.
Les thèmes que vous traitez, si je prends par exemple quelques titres, je vois Little Armageddon, l'album s'appelle Human Disorder, le single s'appelle Slaughter, bon c'est assez sombre, qu'est-ce qui vous inspire?
Bah, on ouvre la fenêtre et on regarde dehors, hein. C'est le ordi. On vient de se taper 2 ans de pandémie où toute la planète s'est arrêtée. On était tous logés à la même enseigne face au virus, tous à essayer de combattre tous les pays, oui, en se disant comment t'as fait toi, ah d'accord, à essayer de faire des choses. Et puis dès qu'on commence à voir un univers au bout du tunnel et à s'en sortir, bim, on fait une guerre. Donc tu vois, ça c'est l'être humain, dans toute sa splendeur. Donc,
Et c'est assez paradoxal avec l'envie de faire danser, non?
parce que c'est pas parce qu'il y a des Vladimir Poutine et des Éric Zemmour ou des Donald Trump ils peuvent nous voler notre vie, ils peuvent nous voler notre argent. Ils ne peuvent pas nous voler notre enthousiasme, ça nous appartient. Le travail des artistes, c'est de mettre en relief toutes ces émotions. Et quand tu regardes des images de Kiev aujourd'hui, il y a énormément d'artistes qui continuent à produire, qui continuent à jouer, parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur prenne ça. On leur a tout pris. Ça, on ne peut pas leur prendre. Et je pense que quand on prend ça à l'être humain, son expression libre, sa vision du réel, son interprétation du réel, alors là, on l'a complètement. Déshumanisé, on l'a complètement atomisé. Et les artistes sont là pour maintenir ce flambeau.
Ça, c'est le propre de toutes les dictatures, de toute façon, de chercher à étouffer la création artistique.
Les premiers dans, c'était les intellectuels, les artistes et puis les handicapés. Enfin, voilà, évidemment, c'est un contre-pouvoir là. C'est pour ça que ça me dérange les lois de quotas.
Alors, tu as sorti un album en 2019, la tournée a été avortée, bon, à cause de la pandémie. Ça t'a manqué d'être sur scène?
Ah bah ouais, on attend que ça, là. On attend que ça. Pour être franc avec toi, on est en train de préparer le show là en ce moment. Et du coup, ça va être très très intense parce qu'on est au taquet.
Vous avez fait quelques showcases pour vous roder?
Encore, on fait notre premier live là pour UFM le 24, donc c'est la semaine prochaine.
On va écouter Slaughter, donc le second single en fait sorti de l'album Human Disorder. D'où vient ce titre?
L'album, c'est un peu un journal intime des 2 dernières années qu'on a vécues. Donc, Slaughter, ça correspond à, on va dire, au premier confinement, quand tu allumes la télé, et puis que tu vois sur chaque chaîne d'information un comptage de morts dans le monde vide. Et ça fait que augmenter. Voilà. Coming through. Destroy the reasons to believe I was pure. Nothing seems to save me. My mind bottles my body. All the things inside me. Yeah, you know I want.
past, the hate, the good, the bad, the mistakes out. I'm not the only one. I regret the love, the past, the hate, the good, the bad, the mistakes out. I'm not the only one.
C'était Slaughter, un single extrait de Human Disorder, le nouvel album de Skip the Use. On va maintenant passer à l'interview express. Alors, question, je dirais, classique, en plus renforcée par tout ce qui se passe actuellement, évacuation immédiate pour cause de pandémie, de guerre, d'attaque de zombies, tout ce que tu veux. Si tu ne dois prendre qu'un seul album de toute ta discothèque, de toute ta collection, qu'est-ce que tu prends ?
Ouais, je pense que j'emporte un album de ma femme.
Et si tu ne dois choisir qu'un seul titre ?
Si je dois emmener une seule chanson, les Nocturnes de Chopin.
Est-ce qu'il y a des titres, des sons, des artistes qui te plongent dans une tristesse insondable ?
Il y en a plein, il y a des titres de mémoire, c'est dès que les musiciens sont sincères, ça me touche. Il y a plein de chansons de Bowie... surtout de musique de film, même des chansons, des choses un peu plus rock'n'roll, un peu plus. Voilà, enfin, bon, il y a plein de trucs qui me touchent de ouf. Ce serait dur de t'en citer une, mais ouais, des chansons de musique classique, chansons de techno.
Ouais.
Et qu'est-ce que tu écoutes pour te rebooster ?
Ah, je sais pas, Don't Stop Me Now de Queen. C'est un peu un cliché. Mais...
Est-ce qu'il y a un titre ? Est-ce qu'il y a un son ? Est-ce qu'il y a un artiste, des artistes que tu ne peux absolument pas ou plus écouter ? On n'est pas obligé de donner des noms.
Moi, je pense que j'aime pas la musique quand elle est traitée comme de la merde, quoi, tu vois, ou comme un moyen. Je pense que tous les mecs qui font de la télé-réalité et qui se disent « Tiens, je vais faire une chanson », ça m'énerve parce que ça respecte pas... les artistes qui font ça de manière sincère. Et, moi, dès que c'est insincère, ça me saoule. Je préfère que les gens ne fassent rien. Mais ceux qui font ça juste pour... Pas pour des raisons. Enfin, et encore, c'est leur droit, hein, c'est pas ça. Mais moi, ça me touche pas.
Est-ce qu'il y a des petits plaisirs coupables, des choses un petit peu inavouables, en fait, que tu as bien cachées dans ta discothèque ?
Ah, et ma femme, elle a fait une playlist de la honte qu'on écoute à chaque fois qu'on fait une teuf. Et dedans, il y a un peu tout ça. Ouais. Il y a beaucoup de morceaux. Hein. Ça va de Gala en passant par. Je sais pas moi. Confettise. Il y a de tout. Voilà. Ça a forcément la honte en plus. Hein. C'est juste que. C'est quand même des choses qu'on ne dirait pas qu'on écoute, mais. Moi, Gala, je suis fan de Gala. Fruit from Desire, je trouve que c'est culte.
Est-ce que tu as des héros, des artistes que tu places vraiment au sommet de ton panthéon personnel ?
Dave Grohl, Kurt Cobain, Stravinsky, Chopin, Justice, Charlotte de Witte, Enrico Sangliano.
Ouais.
Ma femme, plein de gens.
Alors pour conclure, on va écouter un second titre, en fait, extrait de Human Disorder. Et en tout cas, merci Matt pour cet échange et à bientôt. Donc j'espère avoir l'occasion de te voir bientôt avec Skip the Use, donc sur scène. Je rappelle le titre de l'album, Human Disorder.
Eh ben, nous aussi, on a hâte et puis merci beaucoup à toi de nous avoir accueillis dans ton podcast. They call me trouble. Call me fear, they call me pretty, they call me all the side, we call them lies. Oh my God.
Le volume sur 11, un podcast conçu et réalisé par Antoine Dubuquois, musique du générique Nezik. Pour plus d'informations, www.dubuxblog.com.